et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble nous recevons Éric Piolle, maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble et candidat à la primaire écologiste. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir.
Alors si j'ai bien compris, vous êtes, ou bien compté plutôt, vous êtes 5 candidats à la primaire. Et c'est aussi plusieurs nuances de vert, chacun se déclarant le plus légitime et revendiquant en quelque sorte la pureté verte. Quelle est aujourd'hui votre légitimité pour concourir à la présidentielle? N'avez-vous pas un petit déficit de notoriété?
Alors d'abord, peut-être pour revenir sur votre présentation, il n'y a pas de concurrence de pureté parmi ces 5 candidats. Cette primaire écologiste va être l'occasion de parler des vrais sujets, des sujets de fond d'aujourd'hui, à savoir le climat, les questions sociales qui découlent d'ailleurs pour beaucoup du climat, et les questions d'éducation et de culture par exemple. Nous sortons là d'une période des régionales où on avait l'impression que la compétence première d'un conseil régional c'était la sécurité. Tout le monde en fait des tonnes là-dessus, le gouvernement, les LR, le RN évidemment. Et donc là ça va être l'occasion de débattre. Évidemment de mettre en avant ces sujets-là, et puis de choisir le ou la meilleure candidate pour porter cette écologie politique jusqu'à l'Élysée. Donc ça, c'est important. Alors, en ce qui concerne ma candidature, je viens amener ce que je porte depuis que je me suis investi en politique, c'est-à-dire tardivement. Hein, j'ai travaillé pendant 18 ans dans l'industrie auparavant, et donc je viens apporter cette culture de l'exercice du pouvoir, cette capacité à travailler collectivement, à se fédérer, à faire des coalitions avec des objectifs communs. Et c'est ça, aujourd'hui, qui me pousse, qui m'investit, qui fait que je suis à plein dans cette primaire écologiste qui se déroulera donc les 19 et 26 septembre.
Éric Piolle, qu'est-ce que c'est que ce concept d'écologie politique? C'est le seul domaine où on est obligé de préciser, pour quelque chose qui est une science ou pas, d'ailleurs on ne sait pas très bien, l'écologie c'est une science, mais enfin, on précise politique. Ça veut dire qu'on peut faire de l'écologie qui ne soit pas politique? C'est quoi ça? C'est juste planter des haricots bio dans son jardin et dès qu'on veut en faire quelque chose de programmatique, ça devient politique? C'est de ça qu'il s'agit?
L'écologie, vous l'avez dit, c'est une science. C'est la science qui étudie les relations des individus d'une espèce entre elles, des relations de ces individus en communauté et de ces individus avec leur environnement. Ouais. Donc ça, c'est l'écologie comme science. Et donc l'écologie politique, c'est un regard qui s'appuie évidemment sur cette science, mais qui vient garantir des sécurités pour les membres de la communauté. En l'occurrence, c'est une élection présidentielle, donc pour les Françaises et les Français, garantir des sécurités. Ils en ont bien besoin en ce moment, chérir les biens communs et le vivant, prendre soin de ce qui nous lie et surtout ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait agir, c'est nourrir notre désir de sens. Nous devons revenir à nos aspirations les plus profondes, parce que c'est ça qui va nous aider à transformer la société et à régler les problèmes du monde tel qu'on le voit depuis 40 ans et que le système politique n'est pas capable de faire évoluer.
Alors Yannick Jadot, lui aussi se présente à la présidentielle. Il a un petit peu d'avance sur vous en termes de notoriété parce qu'il s'est déjà présenté en 2017 pour finir auprès de Benoît Hamon. Yannick Jadot pense que l'écologie doit passer par l'économie de marché. Est-ce que ça vous dérange cette vision de l'écologie ?
Je viens de ce monde de l'économie, moi. Vous savez, j'ai travaillé pendant 18 ans dans l'industrie. J'ai été cadre dirigeant. Les acteurs économiques sont ceux avec qui je travaille aussi. Je travaille avec tout le monde. En tant que maire, on compose avec tout le monde. Et aujourd'hui, en France, nous travaillons tous l'échiquier politique, avec une économie mixte, c'est-à-dire une économie publique, sur l'éducation, sur les retraites, sur le régalien, la justice, la police, notamment, et une économie de marché. Cette économie de marché. Il y a certains libéraux qui veulent la faire grignoter, cette économie publique, qui veulent la faire rentrer dans l'éducation, rentrer dans les retraites, rentrer même parfois dans le monde de la sécurité. Et nous cherchons à ce qu'elle serve nos intérêts communs, qu'elle nous sorte, que par nos actions et économiques aussi, nous sortions de nos problèmes aujourd'hui, nos problèmes sociaux, nos problèmes du climat. C'est un enjeu fort. Vous avez vu le rapport du Haut Conseil pour le climat. La France va deux fois trop lentement et elle va moins vite que les pays d'Europe. Donc à ce jour, nous sommes en échec. Et en fait, il faut transformer tous nos problèmes sociaux et environnementaux en emploi. C'est ça l'écologie politique, c'est à ça que je travaille. Et c'est ça qui va, je crois, faire le succès de cette écologie politique à l'élection présidentielle de 2022.
Alors, vous venez du monde de l'entreprise, Éric Piolle, vous l'avez dit, et lors de votre meeting samedi dernier à Paris, vous avez dit que vous assumiez, je vais vous citer, d'être éduqué et rééduqué, construit et reconstruit. Donc, il y a eu un Éric Piolle numéro 1 et un Éric Piolle numéro 2. Que s'est-il passé ?
Non, il y a une continuité et c'est vrai que les gens qui me côtoient et me connaissent savent que mes valeurs, mes façons d'agir dans le collectif, mais aussi en essayant d'être à la hauteur des événements qui nous font face, c'est une constante. L'engagement est une constante, la joie de vivre aussi est une constante, comme le partage ou ce travail, vous l'avez dit, hein, de libération perpétuelle, c'est-à-dire réfléchir à quelles sont nos emprises et notamment, évidemment, voir ce que viennent percuter, notamment j'ai 4 enfants qui viennent évidemment percuter une éducation qui est plus ancienne, notamment sur les questions d'égalité femmes-hommes. J'ai été fils de féministe, j'ai été frère de féministe et je suis maintenant père de féministe. Ça me fait bouger et je suis fier de cela.
Mais vous comprenez que le terme rééduquer, il a tout de même une résonance un peu particulière et qu'il puisse inquiéter dans la bouche d'un candidat à la présidentielle, parce que la rééducation dans le domaine politique, la rééducation politique pour continuer finalement avec cette idée d'écologie politique, là il s'agit de rééducation politique. L'histoire a montré au cours de ces dernières décennies que ça n'était pas forcément un modèle à suivre.
Alors je ne sais pas à quoi vous faites référence.
Bah, au Cambodge par exemple.
Ma jeunesse dans la sphère politique.
Camp de rééducation en Chine.
Les camps de rééducation. Je ne suis pas sûr que ce soit.
Non, mais ouais, c'est l'accolement de ces deux termes.
C'est l'accolement de ces deux termes. Vous avez des références politiques que je n'ai pas.
Ah, mais ce n'est pas une référence politique, c'est une référence historique.
Je fais référence. La seule chose à laquelle que ça m'évoque, moi, le terme de rééducation, comme je suis un sportif, c'est plutôt comment on se reconstruit
quand
après
on a été blessé.
Blessure.
Alors voilà.
Le reste, j'avoue que je n'ai pas vos références.
Alors, on vient de l'apprendre. Jean Castex annonce l'abandon du projet de révision constitutionnelle sur le climat faute d'accord avec le Sénat. On vous a entendu ces derniers jours, puisque c'était à peu près ce qui allait se passer. Vous vous dites que c'est une mauvaise, que le gouvernement se cache derrière la décision du Sénat ?
Non, je dis qu'il n'a pas pris le problème au sérieux. Il n'a pas pris les travaux de la Convention citoyenne climat au sérieux. Il y a un peu plus d'un an, en juin 2020, le président de la République accueillait au Sénat les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat qui avaient produit 149 propositions. Il leur disait, à part 3, qui étaient d'ailleurs liées notamment au rapport à l'argent, mais 3 dont il assumait de prendre des jokers, les 146 iront au bout. En fait, elles ont été détricotées, ces propositions, et ça a abouti à la loi climat qui remplit 20% de l'objectif à atteindre d'ici 2030. C'est donc très insuffisant. Et sur le référendum, il a choisi un chemin qu'il savait être une impasse. Donc c'est un calcul politique. Bon, c'est comme ça, c'était écrit, effectivement, nous l'avions dit, et ça se déroule comme nous l'avions dit. Mais c'est pas grave. Quand je serai président, décision que je prendrai sera de faire un référendum en utilisant cette fois-ci l'article 11 de la Constitution, donc un référendum immédiatement accessible à l'ensemble des Françaises et des Français, qui introduira le climat dans l'article 1, comme c'était proposé par la Convention citoyenne, qui introduira de la proportionnelle aux législatives, comme c'est demandé, comme l'ont promis tous les candidats aux présidentielles, séparera vraiment la justice de l'exécutif et qui introduira conduira également le référendum d'initiative citoyenne, qui est une modernisation de nos institutions, qui peut nous permettre, là aussi, de ne pas se retrouver dans les impasses comme celle dans laquelle s'est engagé le président de la République.
Certains amis de vos amis écologistes, vous les inquiétez lorsque vous dites que vous pourriez gouverner, si vous êtes élu, avec la France insoumise ?
Je n'ai pas entendu ça. Vous savez, je gouverne aujourd'hui à Grenoble avec un espace politique qui va de Mathieu Orphelin à Clémentine Autain, grosso modo.
Donc
ils étaient là
insoumise,
pour
ouais.
me soutenir avec tout. Jusqu'à Mathieu Orphelin, donc jusqu'au déçu du macronisme. Et je crois que c'est ça notre force aujourd'hui. Nous voulons transformer la société. Nous voulons vraiment changer la vie. On peut reprendre le slogan de 1981. Et nous voulons le faire en partant du vécu des Françaises et des Français. Comment nous nous logeons, comment nous habitons, comment nous déplaçons, comment nous alimentons. C'est cela, en fait, qui est aujourd'hui central à la fois pour le climat et pour la réduction des inégalités sociales. Ça, avec notamment l'éducation. Et donc, c'est à ça que je m'attelle. Et on voit que ça fonctionne. Voilà. Et donc, de fait, l'ensemble de cet arc humaniste que je porte depuis 2010, depuis le début de mon engagement politique, nous pouvons le fédérer derrière un projet construit et enthousiasmant.
Les écologistes nous ont montré par le passé qu'ils pouvaient faire des choix surprenants lorsqu'une primaire leur est proposée. On l'a vu par exemple lorsqu'Eva Joly a été choisie plutôt que Nicolas Hulot. Comment voyez-vous les choses se passer cette fois ? Est-ce que vous pensez que les écologistes ont mûri et qu'ils feront le choix de celui qui serait le mieux placé pour réaliser le meilleur score à la présidentielle ? Ou est-ce que le choix sera d'abord idéologique ?
Non, je crois. De fait, l'écologie a changé par rapport à cela. Et c'était la raison de mon engagement. Quand je suis arrivé, je leur ai dit, OK, y a un vrai socle, le centre d'intérêt général, les compétences, le travail aussi. On cumule des mandats, c'est important. Je suis l'un des rares maires en 2014. J'étais même le seul à ne pas cumuler avec d'autres mandats. C'est important. Mais il y avait deux fonctions historiques depuis René Dumont. Ils étaient lanceurs d'alerte et ils étaient contre-pouvoir. Donc nous pouvons être héritiers de ces précurseurs tout en disant lanceurs d'alerte et contre-pouvoir, ça n'est plus l'heure. Donc maintenant, il faut agir pour, au contraire, prendre le pouvoir. Pas pour prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir, mais pour permettre d'agir et de mettre en œuvre notre projet. C'est cela qui est important. Et dans toutes les présidentielles jusqu'à présent, nos prédécesseurs, choisi qui était non pas une personne qui pouvait rassembler, faire campagne, être élu, exercer le mandat, mais ils choisissaient la personne qui leur semblait la plus adaptée pour être le porte-voix des idées écologistes dans ce débat présidentiel. Donc là, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, comme elle s'est ouverte à Grenoble en 2014, à une époque où la question était de dire comment on fait le meilleur score possible pour peser sur une majorité socialiste ou autre. Nous sommes arrivés en disant non, en fait, ce n'est plus l'heure de peser, c'est l'heure d'être en première ligne et nous pouvons fédérer. C'est ce qui a été fait à Grenoble, c'est ce qui a été fait dans beaucoup d'autres villes en 2020, et ça montre que là aussi, les mentalités évoluent et que ce rapport de contre-pouvoir a changé au sein des écologistes, aussi par l'arrivée de nouvelles personnes, comme moi il y a 10 ans, mais comme bien d'autres qui ont rejoint le mouvement écologiste avec les marches climat, avec les marches féministes, avec bien d'autres combats, aussi en regardant l'évolution de la société.
Sur la vaccination, le gouvernement consulte pour éventuellement rendre obligatoire la vaccination pour les soignants, mais on voit bien que le gouvernement hésite. Quelle est votre religion là-dessus ? Faut-il faire vacciner les soignants de manière obligatoire ?
Oui, il y a un élément fort à rappeler, c'est qu'il existe aujourd'hui dans le Code de la santé publique un certain nombre de vaccins qui sont déjà obligatoires pour nos soignants. Donc le débat que nous avons là, ce n'est pas pour la première fois nous ferions une obligation vaccinale. Non, nous avons déjà une obligation vaccinale. La question est-ce que nous rajoutons le Covid à la liste déjà présente dans le Code de la santé publique ? C'est important de le souligner. Donc c'est un rapport coût-bénéfice, avantage et inconvénient de cette mesure. Nous voyons là que les soignants, d'abord nous en avons besoin, ils ont été énormément investis depuis plus de 15 mois, donc nous manquons de soignants, et donc là où nous manquons de soignants vaccinés, nous manquons d'abord corps de soignants. Donc il faut là vraiment faire la promotion du vaccin. Et si ça ne fonctionne pas dans les 15 jours, oui, je suis favorable à rajouter le Covid à la liste des vaccins obligatoires. Le Covid est aujourd'hui la première maladie nosocomiale. Les maladies nosocomiales, c'est les maladies qu'on attrape à l'hôpital. C'est la première aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas juste aller vers cette quatrième vague en disant advienne que pourra. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a une deuxième chose. Et là, j'espère que le gouvernement entendra ce que disent les élus locaux depuis plus d'un an. C'est que maintenant, il faut agir vite et fort, plutôt que d'attendre et de se faire déborder comme on l'a été à l'automne, puis déborder comme on l'a été là à la fin de l'hiver. Il faut, dès que les chiffres remontent au-dessus de 50 contaminations pour 100 000 personnes, confiner, faire des confinements locaux qui sont beaucoup moins coûteux, socialement d'abord, d'un point de vue sanitaire également, beaucoup moins coûteux que de se laisser déborder et de tout fermer derrière. Ça a coûté énormément de vies. Il faut garder en tête, ce n'est pas l'heure du bilan, mais que nous avons, à population équivalente, 30 000 morts de plus qu'en Allemagne. Nous avons donc beaucoup souffert. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des proches, qui en plus n'ont pas pu les accompagner convenablement. Et il faudra faire un bilan de tout ça parce que d'autres crises viendront. Donc il nous faut apprendre de nos crises.
Éric Piolle, je voudrais qu'on évoque la laïcité. C'est un sujet dont vous parlez vous-même dans votre livre, le livre que vous venez de publier, qui s'appelle « De l'espoir ». Ouais. C'est un sujet sur lequel on vous reproche souvent de ne pas être au clair ou d'être pour une laïcité trop accommodante. Vous, vous dites dans votre livre qu'il existe au contraire aujourd'hui une laïcité de combat qui ne respecte pas l'esprit de la loi de 1905. Expliquez-nous ce que vous voulez dire.
Oui. D'abord, effectivement, j'invite vos auditeurs à lire ce livre. C'est moins de 100 pages, facile à lire sur la plage. Ça coûte 5 €. S'ils veulent me rejoindre, de rejoindre le mouvement Une certaine idée de demain que nous avons lancé l'hiver dernier et qui peut mobiliser là les soutiens de cette campagne présidentielle. Sur la laïcité, nous voyons bien depuis quelques années, et nous l'avons vu encore dans le débat à l'Assemblée nationale la semaine dernière autour de est-ce que un assesseur peut être voilé ou pas, qu'il y a une dérive totale par rapport à la loi, à ce que dit la loi. Et moi, je suis attaché à l'histoire. Notre loi de 1905 a été un vrai virage dans notre histoire, à la fois de séparation des églises et de l'État, et de la façon de vivre ensemble. Donc la liberté de conscience est totale, c'est l'article 1. Vous avez le droit d'exercer votre culte également. Personne ne peut vous forcer à exercer un culte. Et il nous faut revenir à cela, parce que là aussi, ça nous donne un code de vivre ensemble au quotidien. Et ce code-là est balayé par des gens qui s'en servent pour stigmatiser aujourd'hui les croyants musulmans ou ceux qui sont assimilés, qui sont assimilés à la religion musulmane, alors que peut-être qu'ils sont athées, mais comme moi je suis de culture catholique mais non croyant, ils peuvent être également non croyants ou athées et de culture musulmane. C'est des discriminations fortes, et puis ça nourrit l'islam politique. Moi je me bats aussi contre l'islam politique, il y a un retour du religieux qui veut assimiler la religion avec la politique, avec les modes de vie, avec la culture. Et donc, là aussi, ça nourrit cet islam politique que je combats également.
Merci Éric Piolle. Merci. On est arrivé au terme de cette émission. Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été notre invité. Merci à Camille Nérand et à Charlotte Urien-Tomaca. À très vite. Merci.